Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Graines d'Orienter, le podcast qui vous parle d'orientation. Orientation de nos jeunes pousses, bien évidemment, mais également de celles et ceux qui se sont un jour posé la question de leur orientation passée et future. Je suis Juliette et je suis vraiment ravie de vous accueillir dans ce premier épisode. Alors le podcast, depuis quelques mois, il anime mes trajets en métro, il rythme mes séances de sport et il rend certaines tâches ménagères beaucoup moins ennuyeuses. Et cette fabuleuse découverte, je la dois à Pauline Grisoni. Pauline, elle est la créatrice de La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. À son micro, des personnalités au parcours assez épatant, par exemple le pâtissier Cédric Rollet ou l'aventurière de l'extrême Stéphanie Jiquel, reviennent sur un échec particulièrement cuisant de leur parcours. C'est très enrichissant, hyper instructif, et j'étais donc ravie que Pauline accepte d'être ma première invitée. Pour moi, Pauline est revenue sur son parcours d'orientation, scolaire et professionnel, sur les difficultés qu'elle a surmontées avec sa bonne dose de détermination corse, sur ses frustrations de littéraire contrarié, et vous verrez, elle nous véhicule un message hyper énergisant qui, en somme, nous dit « Allez-y, mettez les pieds dans le plat, foncez. Qu'est-ce que vous avez à perdre ?» J'ai hâte de vous faire découvrir cette première discussion et donc tout de suite, place à l'interview avec Pauline Grisoni. Alors bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Merci beaucoup de donner ton temps et puis sa chance à ce premier épisode.
Je suis touchée d'être le premier épisode.
Pour sauter tout de suite dans le grand bain, la première question que je voulais te poser, c'est quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'ait donné ?
Le pire du pire, c'est surtout ne fais pas L. J'ai toujours été très littéraire. J'avais un prof de maths qui m'avait dit « j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi littéraire que toi ». J'écrivais les formules mathématiques en lettres, pour te dire. Tu vois, on voit le niveau de littéraire. J'adorais lire, j'étais passionnée par le français, la philo, bref, j'adorais tout ce qui était autour de la filière L. Et tout mon entourage m'a dit vraiment, surtout, ne fais pas L. Tu vas terminer prof. Est-ce que tu veux être prof ? Et toi, t'as 17 ans et t'es là, bah, je sais pas. Et t'as envie d'avoir plusieurs options, pas juste l'option prof ou philosophe, ce qui est pas mal. Mais bon, encore une fois, à 17 ans, j'étais pas vraiment sûre de mon coup. Donc, je me suis orientée vers ES. Parce que ES, ça mène à tout. ES, c'est bien pour tout le monde. Sauf qu'au final, pour moi, c'est bien pour personne. Puisque c'est pas forcément adapté à une personnalité en particulier, c'est trop large pour bien s'adapter à chaque étudiant. Je me suis retrouvée un peu frustrée durant 2 ans, parce que les maths, c'était l'enfer, je bossais à mort, j'ai eu 15 au bac, hein. La littéraire, elle a eu 15, elle est contente. Mais c'était un enfer total, en plus j'avais pris option maths, parce qu'on m'avait dit « c'est bien, c'est vachement bien option maths », alors moi j'ai écouté. Je me suis jamais une seule fois écoutée. J'ai fait confiance à la vie des autres, j'ai pas écouté mes tripes. Je pense que ça, c'est le pire à faire, vraiment. Et donc voilà, je suis sortie avec ce bac ES, avec une mention assez bien, mais toute l'année j'avais eu 11 de moyenne, ce qui était absolument pas suffisant pour faire une école qui me plaisait, ni une prépa. Donc je me suis retrouvée un peu paumée avec ce conseil-là. Et avec le recul, je me suis rendu compte, lorsque j'ai fait des études supérieures, qu'il y avait la moitié de la classe qui avait fait L, donc un peu les glandes, si je peux m'exprimer ainsi. Et des personnalités que j'admire, je pense à Pauline Léniaud, que j'ai eu la chance d'interviewer dans mon podcast, c'était l'épisode 2. Une nana absolument brillante qui a la marque Gémio, qui emploie, je crois, plus de 150 personnes, qui est extrêmement dynamique. Enfin, la nana, elle est bluffante. Bah, elle a fait elle, voilà. Donc, pire conseil.
Oui, la filière elle, je pense, a énormément subi les différents préjugés sur les littéraires. C'est quelque chose qui t'a marqué, du coup, par la suite?
Ça m'a vachement marqué parce que je suis encore en train d'essayer de lire tous les livres que j'aurais pu lire durant ces 2 années. Moi, j'adore lire, j'en ai fait mon métier. Je pense que, comme tu enregistres chez moi, tu vois, j'aime vraiment beaucoup lire, j'ai une grosse bibliothèque. Et je continue d'être un peu obsédée par l'idée de lire les classiques que j'ai pas lus durant ces années-là. Et j'ai l'impression que mon bagage n'a pas été complet. C'est très bizarre à dire, mais j'aurais adoré avoir... Pour moi, la lecture, ça m'a apporté tellement au niveau réflexion, au niveau vocabulaire, au niveau voilà, ma manière de m'exprimer, de m'écrire dans mon métier de journaliste. Ça, t'es jamais seule avec un livre. Enfin, pour moi, c'est hyper important, la lecture. Ça a façonné qui je suis. Il y a des livres comme ça qui ont vraiment changé ma façon de réfléchir. Je pense à King Kong, théorie de Despentes, par exemple. Et je suis hyper frustrée de ne pas avoir eu ces 2 années-là où je me construisais, c'est quoi, c'est de 16 à 18, ces 2 années pour avoir cette occasion de lire énormément de grands textes, de réfléchir à ce que je suis, peut-être un peu aussi à travers ça.
Et donc du coup, en te replongeant dans tous ces livres, c'est peut-être aussi une manière de te réapproprier ce qui t'a échappé aussi, ce qui est le cas de beaucoup de jeunes, je pense, avec le recul, qui ont le sentiment que leur orientation leur a un peu... filer entre les doigts.
Ouais, je confirme. Je n'ouvre aucun bouquin de maths. Je sais même plus ce que c'est Pythagore. Donc oui, pour moi, c'est la filière de la frustration. Et donc avec les livres, ouais, je refais des études, elle, un peu.
Et donc aujourd'hui, tout n'a pas été perdu puisque à force de lecture et puis de détermination, tu es devenue donc journaliste.
Ouais.
Aujourd'hui, journaliste plurimédia. Si on revient un petit peu sur ton parcours d'orientation après cette frustration post-bac, comment tu as vécu la construction de ton parcours, de ton chemin de vie, professionnel bien sûr, mais aussi personnel en même temps?
Alors moi, j'avais le syndrome de la bonne élève. Il fallait que je fasse plaisir, que j'aie les bonnes notes. Et je les avais pas. Donc je me retrouve avec mon bac en poche, avec 11 de moyenne, et je me dis non, c'est pas assez, parce que il faut faire une prépa pour réussir, et que moi je peux pas aller dans une prépa, donc que je ne veux pas réussir. Et ça, c'était impossible pour moi de pas réussir. Donc j'ai dit à mes parents, je vais redoubler mes 2 premiers semestres pour me refaire un dossier en béton, les gars, je vous jure, j'ai un plan. Et le dernier semestre, je pars à l'étranger, en Angleterre, je sais pas, mais je ne repasse pas mon bac puisque je l'ai eu. Et mes parents m'en ont dissuadé et à juste titre en disant « Non, Pauline, il faut avancer. Et là, tu vas stagner, c'est pas sain pour toi, psychologiquement, c'est pas bon. Quoi qu'il arrive, tu te trouves, tu veux améliorer ton anglais, très bien. Et ben, on a entendu parler d'une filière universitaire qui s'appelle LEA. » qui te fait travailler à la fois sur de l'économie et des langues. Donc vas-y, tente, fais une année. C'est génial parce que j'avais que 20 heures de cours par semaine. J'ai eu un mois et demi, je crois, à Noël sans partiel, mon premier copain. C'était pas forcément l'année la plus pertinente pour moi, mais c'était vraiment, vraiment génial. Et puis je me suis dit, oh, j'adore parler anglais, je trouve que c'est hyper grisant, c'est un sorte de challenge. Ça me plaît. Et dans ma tête, je m'autorisais pas. Je suis un peu une éponge à peur, entre guillemets. C'est-à-dire que on te dit ça n'y va pas, c'est bouché. Moi, je vais pas réfléchir plus loin. Je vais faire ok, d'accord. Et ben, c'est que je suis pas capable d'y aller, que je vais pas réussir. Donc, je te fais confiance. Encore une fois, je n'écoute pas mes tripes. Tout le monde décide pour moi. Et moi, à ce moment-là, je me dis. Je vais aller dans un truc qui fonctionne bien, le commerce. C'est bien ça pour une littéraire, bravo. Et donc, après cette année LEA, où, spoiler alerte, j'ai mon premier semestre et pas mon second. Encore une fois, le petit copain, je l'adore, mais je crois qu'il faisait partie des explications, j'essaye de me rediriger vers une filière plus technique. Donc je pense tout de suite à un IUT qui mène une école de commerce. Une sorte de parcours tout tracé un peu parfait. On te dit c'est très bien, vas-y ma fille, tu vas devenir commerciale, c'est parfait. Mon père qui était là, la négo, c'est la vie, parfait, vas-y. Et je vais voir mon proviseur. Est-ce que je te raconte ça maintenant ou pas ?
Avec plaisir.
Ok.
J'ai envie qu'on fasse une petite dédicace.
D'accord. Qu'est-ce dédié au proviseur ? Je vais voir mon proviseur et j'ai besoin d'un papier pour remplir mon dossier où il y a une lettre de motivation, il y a une sorte de petit CV de ta vie étudiantine passée. Je vais voir ce proviseur qui me met soit avis réservé, soit avis défavorable, mais un truc un peu horrible, alors qu'il ne m'avait jamais vu, on ne s'était jamais parlé, il ne savait pas quel était, je ne sais pas, mon état d'esprit, mon caractère... mes ambitions. Le mec, il a juste regardé mon année de terminale et il a mis il a coché cette case qui fait que clairement la moitié de tes ambitions part en fumée. Donc je suis très vexée, je me retrouve face à ça, je me dis ok, bon, je vais faire un BTS commerce international, je crois que c'est ça le nom, je me souviens plus, il faudra revérifier. Et puis, lorsqu'on fait son choix sur le net, là, j'avais entendu parler que les IUT, c'était très bien et qu'il y avait un IUT Tech de Co qui menait à des écoles de commerce et que oui, c'est très bien, le fils de la voisine l'a fait et c'est un brave garçon, donc très bien. Et je remplis le premier choix, je mets IUT Tech de Co parce que apparemment c'est bien et que de toute façon je ne l'aurais pas puisqu'on m'a dit avis défavorable. Donc YOLO, Pauline, fais un coup de folie et mets ça. Et je me retrouve le jour des résultats hyper emmerdée parce qu'en fait j'ai eu l'IUT et j'ai pas eu le BTS que je voulais. Donc cette IUT, je me revois aller sur Google et taper qu'est-ce qu'un IUT Tech de Co. Ce qui est pas mal quand une fois qu'il est trop tard, c'est assez malin. Je trouve que ça a l'air pas mal, ça me flatte plutôt parce que je suis là dans ton cul au proviseur, je suis un peu fière et donc j'appelle ma mère en lui disant écoute, bonne nouvelle, j'ai eu un IUT, apparemment c'est bien. Et ma mère me dit ah, super si c'est bien, donc voilà, ça s'arrête là. Et avec le recul, maintenant je crois que j'ai un peu abandonné parce que j'ai concrètement d'autres choses à faire plus passionnantes dans ma vie. Mais je crois que ça a duré toutes mes études où je me suis dit que j'allais faire une lettre incendiaire à ce proviseur en lui disant que c'était un scandale, que vous voyez, je l'ai eu mon IUT, ouais je l'ai eu et puis maintenant je fais ça. Enfin bon, j'avais une sorte d'aigreur envers lui de m'avoir jugée sur un papier. Voilà.
Bon. Eh bien, j'espère que...
Qu'il
nous écoute. Et surtout, je trouve que ça révèle aussi l'état d'esprit dans lequel on oriente beaucoup, trop encore de jeunes en France. Plutôt par le négatif, par la défiance, par le manque de confiance. Et c'est super qu'au final, t'aies réussi, toi, à rebondir et à te construire...
Ouais, à fond. Et puis en plus de ça, moi j'avais pas... c'était déséquilibré parce que moi j'avais 18 ans. Lui, ce proviseur-là, et puis ces adultes autour de soi, ont tous la cinquantaine. Alors évidemment qu'on leur fait confiance, évidemment qu'à aucun moment on se dit non mais ma parole est plus importante. Parce qu'on est encore en pleine construction, donc on n'a pas encore les bases solides pour se dire maintenant j'ai confiance en moi. Parce que... tu reconnais pas encore ta valeur forcément, tu sais pas encore vraiment qui tu es, donc la parole des autres est beaucoup plus forte que la tienne. Et à aucun moment donné je me suis dit non mais je vais m'écouter d'abord, alors qu'en fait c'est ma vie quoi, je trouve ça incroyable avec le recul. Mais bon,
et ta vie tu l'as complètement prise en main ensuite.
Ouais.
Et aujourd'hui tu es la créatrice du podcast La Leçon. Mm-hmm. Qui nous distille ses enseignements sur l'art d'échouer.
Ouais.
Donc tu interviews des personnes au parcours
qui nous font rêver concrètement,
inspirant, Et tu en tires la substantifique moelle pour revenir sur ces épisodes qui sont parfois...
C'est très joliment dit.
moche, pas cool, dur. Et c'est un pur bonheur de l'écouter. Et donc justement, je voulais savoir au fil de ces rencontres, quelle leçon toi tu en as tiré sur la perception de l'échec en France ? Et quel lien tu pourrais faire entre cette perception de l'échec et la manière dont on oriente aujourd'hui les jeunes du collège finalement jusqu'au post-bac?
Alors déjà, le premier truc qui m'a frappée, c'est que toutes les personnes que j'ai interviewées, sportifs de haut niveau, grands chefs pâtissiers, engagés en politique, etc., savent tout de suite directement de quoi ils vont parler. Ils ont tous un ou plusieurs gros échecs en tête qui leur viennent de façon évidente. Et je me suis dit, mais en fait, c'est dingue parce que moi, j'ai 27 ans, j'avance à mon rythme, mais j'ai pas du tout, loin de là, encore leur niveau. Et pour moi, c'est plus dur d'essayer de mettre des mots sur mes échecs. Pourquoi ? Parce que j'ai fait moins de choses qu'eux. Et plus on fait des choses extraordinaires, et plus les échecs sont visibles aussi à côté. Et je trouve ça intéressant et... Je trouve que ça fait du bien de réaliser que, en fait, si on veut aller loin, il faut aussi et forcément échouer. Et je pense que ces gens-là, s'ils ont un échec tout de suite en tête, c'est qu'ils ont pris des risques. Et qu'avec les risques viennent forcément des échecs, viennent aussi des victoires. Ne vous inquiétez pas, c'est positif, ce que je veux dire. Mais... je pense que vraiment, quand on essaye de se lancer et de se... dépassé, on a forcément un échec qui arrive globalement. Donc tous ces gens qu'on admire, eux, ils en ont plein dans la tête. Et ça, ça fait vraiment du bien. Par rapport à l'orientation, avant ça, je pense qu'il y a un épisode qui m'a particulièrement marqué, celui d'Ariel Wiesman, qui dit quelque chose que je trouve ultra intéressant. Lui, il dit, mais c'est tout bête, hein, que l'échec, c'est un début, c'est une fin, c'est juste une période de ta vie, et demain, c'est terminé. Et voilà, et il faut juste pas s'attacher et se prendre son échec sur le dos comme un petit baluchon qu'on trimballe et se refouetter avec ça tous les jours en y repensant. Et c'est ce qu'on fait forcément tous, parce qu'on est tous un peu masochistes à certains moments, en disant, ouais, mais cette fois-ci, t'as vraiment merdé, t'as honte, tu ressens les émotions. Et lui te dit, mais tout simplement, tu le laisses filer. C'était un moment de ta vie. Demain, il est passé. Et demain, tu as d'autres succès. Il faut aussi mettre en valeur ces succès-là. On pense qu'au négatif, toujours. Tu retiens de ton année, tu retiens quoi ? Les moments où tu as merdé. Alors qu'il y a forcément dans ta semaine, dans ton année, il y a des moments de folie aussi. Sauf que très naturellement, on se concentre toujours sur les 10% qui sont négatifs. Parce qu'on est tous un peu perfectionnistes, dans le fond. Et je pense que là-dessus, il faut vraiment changer son point de vue. Il faut faire basculer sa vision en disant « Ok, j'ai merdé, bon, on met ça de côté, mais j'ai fait ça aussi bien. Et je vais reconnaître mes efforts là-dessus, qui sont bien. Demain, je vais faire ça, et demain, mon échec, il est passé. Donc demain, c'est demain, et on recommence sur de bonnes bases. » Et dans le système français, tout simplement, à partir du moment où on a un carnet et des notes, les échecs, ils sont visibles. Manifestement, ma mauvaise orientation, donc moi qui aurais dû aller probablement en L, qui me suis retrouvée en ES avec des notes hyper banales, j'étais l'élève banale, ennuyeuse, qui est ni mauvaise ni bonne, donc qu'on oublie, et bien je me suis retrouvée avec ce carnet-là, avec cet avis défavorable, alors que j'avais une force de vie mais énorme, j'avais envie de tout déchirer, de cartonner. Quoi qu'il arrive, même commercial, j'avais envie d'être la meilleure, mais vraiment, j'avais une envie de vivre énorme. Et je me suis retrouvée avec ce papier de l'enfer qui m'autorisait pas à ça, quoi. Donc, Dieu merci. Ensuite, après ces années-là, donc j'ai fait mon IUT, je me suis dit, ok, donc en fait, j'ai pas envie de passer les concours de l'école de commerce parce que j'ai la flemme et que je suis pas quelqu'un de scolaire. Comment est-ce que je fais pour trouver quelque chose de créatif qui m'amuse, et ça c'est comme ça que je me sens le mieux, et c'est dans ces cas-là que j'ai mes idées, que je me défonce en fait. dans mes stages, etc. C'est là où je me défonce vraiment dans le concret. J'ai fait une école de communication. Je voulais être conceptrice-rédactrice et on crée un book quand on est conceptrice-rédactrice pour montrer ses idées de slogans, de publicité. Donc là, on crée des fausses publicités et ça marchait pas du tout. Mais alors, vraiment, vraiment pas du tout. C'est-à-dire que j'ai eu un retour sur tous les CV que j'ai envoyés. J'ai eu un retour d'une agence qui m'a dit c'est top, mais nous on prend que pour 6 mois et moi j'avais que 3 mois de stage. Donc vraiment dans la merde. Et je me suis dit, bah, j'adore écrire, ok, faut que je montre qui je suis. Et je me suis créé un sort de mini blog corrosif. Je reprenais des photos, je les décalais avec des punchlines. Et j'ai décroché un stage qui s'est révélé passionnant chez Minute Buzz, qui aujourd'hui est vraiment le média phare 100% réseaux sociaux, 100% vidéo, qui développe aujourd'hui des podcasts aussi. D'ailleurs, je leur fais les pubs au passage. Et voilà, je crois que c'est comme ça que moi j'ai trouvé ma voie, le chemin de traverse.
Donc dans toutes ces contraintes, finalement, tu as réussi aussi à puiser et à te forger une vraie créativité qui t'a permis d'avancer et de te construire petit à petit.
Je pense que la créativité, je l'avais. Je pense que je suis un peu littéraire créative, un petit peu artiste, un peu chez père dans ma tête. Ça me dessert beaucoup, mais à côté de ça, bah, y a des petites pépites de temps en temps aussi. J'ai entendu une jolie phrase qui disait que la créativité naît forcément sous la contrainte. Alors, je ne suis pas capable de te dire de qui. Je sais pas, on va dire Socrate, parce que ça fait bien, mais c'est absolument pas le cas.
C'est la référence littéraire de cet épisode.
De rien, je vous en prie, si vous avez besoin, j'en ai d'autres. Donc je sais pas si dans mon cas, c'est de la contrainte qui est née tout ça. En revanche, je crois que c'est mon ego. Mon ego en a pris un gros coup. Et j'ai pas forcément... Non, je crois que c'est presque même de la fierté, en fait. La fierté corse. J'étais là, non mais attends, vous foutez de ma gueule ou quoi? C'est mort, moi je veux y arriver, alors faut que je me démerde, mais je vais trouver un moyen, je vous jure que je vais trouver un moyen. Je pense que c'est plutôt ça que la contrainte qui a joué. On m'a titillé là où ça faisait mal.
C'est un vrai message de persévérance et c'est super chouette. Et du coup, pour conclure, je voulais te demander en dernier lieu, quel était ton conseil à toi? Alors, soit pour les jeunes, des ados, des jeunes pros, ou même des parents qui pourraient écouter ce podcast sur l'orientation, sur toi, à contre-pied de tout ce qu'on a dit, sur les mauvais conseils qu'on a pu nous donner, quel est ton meilleur conseil? Quel serait ton meilleur conseil d'orientation?
Alors, je vais te dire un truc qui, pour moi, me sort des tripes, c'est ne faites pas vos choix par... Ne faites aucun calcul dirigé par vos peurs. On a tous des peurs en nous, surtout je crois quand on devient parent, c'est évident que la peur est présente. Ce que j'entends autour de moi est des gens qui aiment profondément leur enfant et qui essayent vraiment de faire les choses bien pour eux, ce sont toujours des conseils qui sont dirigés par les peurs qu'ils entendent autour d'eux. Et les peurs, ça vient de deux choses, ça vient d'une frustration personnelle. Je ne me sens pas capable de, donc je vais peut-être inconsciemment casser le rêve de la personne en face. Et ça vient aussi d'un manque de peut-être de créativité. Et donc on vous dit, il faut pas faire ça, ça marche pas, n'y allez pas, blablabla, blablabla. Donc évidemment, quand on est élève, on encaisse tout. Quand on est parent, on encaisse tout. Enfin, c'est normal, c'est vachement dur. Moi, j'aurais jamais rêvé d'être journaliste puisque c'est un milieu bouché, qu'il n'y a pas de travail et que ça ne paie pas. Au final, je me retrouve avec un... J'ai eu de la chance, et la vie, c'est aussi de la chance, d'avoir un CDI à la sortie de mon boulot, de mon stage plutôt. Et je me suis dit, mais fuck off, toutes ces années à restreindre mes rêves, à ne pas oser, alors que au final, j'ai un truc qui me fait vraiment kiffer. Et je crois pertinemment que qu'importe le choix que vous ferez, il y a toujours de la place pour des bons, des créatifs, des gens qui se bougent le cul, des gens surtout persévérants. C'est vraiment, vraiment, vraiment le mot d'ordre. C'est-à-dire que vous allez échouer 1000 fois et la 1001e, ça va réussir. Ne dirigez pas vos choix par la peur. Écoutez simplement là où vous êtes le meilleur. Si vous, vous êtes manuel, allez-y. Si vous, vous êtes créatif, foncez. Il y a besoin, quoi qu'il arrive, de gens comme vous et vous trouverez votre place. Et mon deuxième conseil, qui pour moi est hyper important, on est en 2018. On va avoir plein de vie. Donc, au pire, vous gourez 4 ans. Mais 4 ans dans une vie, c'est rien. On ne sait même pas si on va avoir une retraite. Donc, c'est pas grave. Moi, là, je suis en train de me dire, bah voilà, j'ai envie de changer de voie, j'ai envie de réinventer mon taf. Mais je trouve ça trop bien. Donc, encore mieux, si on peut commencer par un travail, se dire, bon, je sais pas vraiment si c'est le bon. Tester, essayer d'apprendre à découvrir qui on est, à acquérir... des compétences, et puis bam, on bascule sur autre chose, et on se fait confiance, et on y va, et on saute dans le vide, et puis ça marche pas, et ben il y a peut-être un troisième truc qui vous attend, et la troisième personne qui va vous recruter, elle va être bluffée, parce que vous aurez eu le courage, la force, la persévérance de tenter des choses. Donc n'écoutez pas vos peurs, essayez de réfléchir à qui vous êtes vraiment, et foncez.
De littéraire à littéraire, un grand merci. J'espère que ma discussion avec Pauline vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et à très vite pour un deuxième épisode de Graines d'Orientée.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.